Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Monde en 3 minutes. Vous écoutez France Culture, nous sommes le 15 mai 2084, il est 13h. Nous sommes aujourd'hui avec Mathieu Ferry et Mary Hawking. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Eric.
Alors Mathieu, vous êtes chercheur en informatique pour iTrans. Et vous avez d'ailleurs écrit un livre sur la fameuse multinationale qui s'intitule iTrans ou la soif de perfection.
Oui, en effet.
Alors on commence très simplement. Quelle est votre position dans ce livre ?
Eh bien, je crois que le titre est assez révélateur. J'essaye de m'opposer aux idées générales qui définissent iTrans depuis plus de 10 ans déjà, et qui touchent même les transhumanistes. Il est vrai que la situation économique mondiale s'aggrave depuis quelques années, mais ce n'est pas essentiellement la faute de iTrans. Au contraire, je rappelle que le but premier de iTrans est l'humain en lui-même et que l'entreprise cherche en premier lieu à améliorer la condition de l'homme en améliorant l'homme.
Excusez-moi Mathieu, je vous coupe, mais peut-être devrions-nous clarifier la situation pour nos auditeurs. Je rappelle que nous sommes dans une émission de vulgarisation. Marie, peut-être pourriez-vous définir le transhumanisme ? De quel mouvement philosophique s'agit-il ?
Premièrement, le transhumanisme n'est pas qu'un mouvement philosophique. C'est un mouvement, disons, global, culturel et intellectuel, qui prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Dans cette optique, les penseurs transhumanistes, les scientifiques tels que M. Ferry et les entreprises, je pense bien sûr à iTrans, comptent sur les biotechnologies et sur d'autres techniques émergentes. Le mouvement transhumaniste est à mon sens plus une utopie qu'une réalité factuelle.
Comme vous venez de l'énoncer, Marie, le transhumanisme est en train d'envahir notre vie entière. Les auditeurs et nous-mêmes le savons très bien, l'intelligence artificielle et les robots transhumains prennent notre place dans nos emplois.
Oui, en effet, nous pouvons remarquer que plus de 40% des emplois au Japon sont maintenant automatisés et pris d'assaut par les humains augmentés par iTrans. Deux hommes augmentés font aujourd'hui le travail de 15 humains normaux. Le monde entier connaît en ce moment la plus grande crise de chômage depuis 2008.
Je vois que M. Ferry ne semble pas d'accord avec vos propos, Marie.
Je ne comprends pas pourquoi une partie de la population s'oppose à cette entreprise. Dois-je vous rappeler tous les bénéfices qu'elle crée ? Une hausse de la production s'explique grâce aux hommes augmentés présents sur le terrain et qui peuvent travailler 12 heures par jour sans arrêt. Imaginez-vous bien des hommes capables de ne ressentir la fatigue qu'après 12 heures de travail. De par ce progrès, nous ne manquons quasiment plus de rien. Nous ne pouvons...
Je vous interromps là, Monsieur Ferry, mais le monde utopique que vous présentez ici à nos auditeurs n'est pas celui dans lequel nous vivons. Il est bien de rêver d'un monde où tout va pour le mieux et où les hommes augmentés cohabitent sans problème avec les hommes normaux. Si je puis dire, je vous ferai remarquer que les hommes sont en véritable course au travail en faisant face à leurs adversaires qui apprennent toutes les notions au monde qu'un jour.
Si l'homme augmenté peut alors apprendre plus vite, comme vous le dites, l'homme en général peut alors se mettre à son niveau et accéder à des connaissances beaucoup plus rapidement.
Êtes-vous au courant de toutes les inégalités économiques et toutes les injustices qui existent ? Certains hommes n'ont même pas assez pour se nourrir. Comment voulez-vous que ces mêmes hommes puissent payer cette mise à jour de l'humanité ?
Eh bien, iTrans travaille justement en partenariat avec les États pour pouvoir développer son extension à toute la population sans dénigration. Des études ont prouvé que plus de 70% de l'humanité serait alors douée de facultés d'apprentissage presque instantanées juste en se branchant à un ordinateur. Le transhumanisme permet une augmentation majeure de la société dans laquelle nous vivons. Rappelez-vous, en 2017, choisir la couleur des yeux de ses enfants ou encore choisir le sexe de celui-ci coûtait 20 à 30 000 euros. 71 ans plus tard, maintenant, cette pratique est devenue courante et l'enfant est en plus en possession d'une modification cérébrale pour optimiser l'apprentissage.
Ce que je comprends de tout cela, c'est que le monde est en train de perdre la notion de l'humain. Le transhumanisme engloutit l'humain. Pouvons-nous encore parler d'un homme si celui est modifié dès sa création pour plaire au code de la société ?
Désolé de vous interrompre là, Madame Hawking, mais il nous reste que peu de temps pour notre émission et elle doit prendre fin. Votre question d'ailleurs fera l'objet d'une nouvelle émission. Le transhumanisme est-il un humanisme ? Mais revenons à notre débat. Pour conclure, Monsieur Ferry, Madame Hawking, en une phrase, le transhumanisme avenir ou déclin de l'humanité ?
Le transhumanisme peut avoir du bon dans ses fondements les plus profonds. Mais la perversion de ces procédés ont signé l'acte de mort de l'humanité.
Pour moi, Marie n'a pas tout à fait tort, mais nous devons voir dans le transhumanisme une place importante de l'envie d'améliorer l'homme et de le placer dans un futur encore meilleur que celui dans lequel nous vivons. Qui sait, d'ici 20 ans peut-être arrivons-nous à éviter la mort et à leur vivre pour l'éternité.
Un grand merci à tous les deux de nous avoir fait part de votre ressenti sur la question du transhumanisme. Les auditeurs ont pu constater que cette interrogation est contrastée par différents points de vue. Et vous, vous êtes plutôt pour ou contre le transhumanisme ? Indiquez-le nous sur notre site internet et sur Twitter. Quant à moi, je vous retrouve demain, à la même heure, pour un nouveau Le Monde en 3 minutes, avec l'intervention de deux experts sur la production de pommes en Antarctique.